Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Eh bien, soyez les bienvenus, nous avons prié réellement que nous nous fassions beaucoup de bien ce soir autour de la parole de Dieu, à l'écoute du message de l'Évangile, sur le thème que vous savez, jamais satisfait. Quel espoir, jamais satisfait. Alors ce soir nous allons parler de fête, de banquet. Et ceci parce que nous vivons au sein d'une génération qui veut vivre et faire la fête. Une génération qui s'est donnée pour religion, il faut le dire, la plupart du temps celle du plaisir. Du plaisir, encore du plaisir, toujours du plaisir. Et pour traiter de ce sujet précisément, du plaisir, nous introduisons par un texte, un premier texte, nous lirons plusieurs textes. Un premier texte en Marc chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 14. Marc 6, 14. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité des morts. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean-Baptiste lui disait « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. » Hérodias était irritée contre Jean. Elle voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean. Il le connaissait pour être un homme juste et saint, et il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle et elle dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. » Et il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Il avait complètement perdu la tête. Étant sorti, la fille d'Hérodias, bien entendu, dit à sa mère, « Que demanderai-je ?» Sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande, « Je veux que tu me donnes à l'instant, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean-Baptiste dans la prison. Et il apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille. La jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. C'est tout ce que vous avez à nous raconter Alain Chouaquier ce soir, une histoire tellement lugubre, certes, mais aussi tellement riche d'enseignements. Nous lisons un autre texte maintenant dans la première de Jacques, plutôt de Jean, au chapitre 2, nous lisons les versets 15 et 16. N'aimez point le monde, dit l'apôtre Jean. Non pas le monde en tant que création de Dieu, hein, certainement pas. Mais le monde en tant que monde en révolte contre Dieu, en tant que monde du péché. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quelle parole ! Et nous lisons un troisième texte. En Luc chapitre 22, nous lisons à partir du verset 14. Un autre festin. Un autre banquet. Avec le Seigneur cette fois. L'heure étant venue, Jésus se mit à table avec ses apôtres. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous. Avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe, et ayant rendu grâce, il dit, prenez cette coupe, et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui était écrit de lui. » Mais malheur à l'homme par lequel il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Je disais donc tout à l'heure que nous vivons au sein d'un monde qui veut vivre et faire la fête, et qui s'est donné la plupart du temps pour seule religion, celle du plaisir. Oui, disais-je, du plaisir, encore du plaisir, toujours du plaisir. Et nous éprouvons dans notre génération, et surtout dans notre Occident, dit chrétien, et qui connaît une explosion d'abondance, une consommation comme jamais, mais une telle soif de vivre, une telle soif de joie de vivre, mais qui, littéralement, s'est trompé de direction dans sa recherche de joie de vivre. Mais cette histoire n'est pas nouvelle. J'allais dire, l'homme de tout temps a cherché à se satisfaire de plaisir, de se donner le maximum de bien-être et de consommer de plus en plus, dans quelques générations que ce fut, même dans le passé. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au lieu réellement de vivre la fête, les hommes ont vécu la défaite. Littéralement. Voilà l'histoire que nous a rapportée tout à l'heure Marc 6. Une première table, un premier banquet. Le palais, les palais, hein, en général, des rois, Hérode, en leur temps, faisaient partie des sept merveilles du monde. Ils impressionnaient ces palais tant par leur taille que par leur faste. Hérode le Grand, nous rapporte l'histoire, était un passionné de constructions fières et grandioses. Et on aimait festoyer, justement, dans ces palais. Toutes les occasions étaient bonnes pour le faire. Mais que d'intrigues, que d'affaires louches, que de problèmes, que d'affaires douteuses s'y déroulaient. Que d'affaires bizarres s'y passaient. Dans les textes entendus tout à l'heure, oh, ce jour-là, le palais connut une effervescence absolument remarquable. L'effervescence des grands jours, parce que il s'agissait de l'anniversaire du roi. Alors, quand un roi fête son anniversaire, ça ne passe généralement pas inaperçu. Et précisément, ce roi n'était pas Hérode le Grand, mais Hérode Antipas, qui était fils d'Hérode le Grand. Sur les traces, précisément, de son père. Quel événement ! Au palais, un festin fut offert aux puissants de la Palestine. Tandis qu'aux cuisines, on s'affairait à mettre au point les meilleurs plats du pays aux caves du palais. L'on s'affairait également à sélectionner les meilleurs vins du pays pour cet anniversaire et pour le fêter de la meilleure façon. Le tout Israël arriva en grande pompe, invité par le roi Hérode, l'élite politique, l'élite militaire, l'élite religieuse, venant honorer ces festivités royales. Ces gens qui faisaient en ce temps-là la pluie et le beau temps dans cette région du monde. Tous les signes humains de la prospérité, de la joie de vivre, et de façon, j'allais dire, apparente, tous les signes humains de l'abondance, de la puissance, étaient là, dans ce palais, autour de cette table. Et on avait tout lieu de se réjouir, comme beaucoup ne pouvaient pas se réjouir dans ce même pays. Oui, ce jour-là, ce festin sur la table vous aurait donné le vertige, littéralement, hein. Le palais lui-même était certainement éblouissant de luxe et de lumière. On allait donc passer des heures absolument fantastiques à l'occasion de l'anniversaire de cet Hérode Antipas. Puis tout à coup, le roi fit son apparition, tandis que ses invités étaient là, ses convives l'attendaient. Tout à coup, le roi était apparu. Mais ce roi donnait l'impression de ne pas être à l'aise du tout. Il donnait plutôt l'impression, malgré ce temps de fête, ces circonstances qui devaient être heureuses, il donnait plutôt l'impression d'être mal dans sa peau, tendu, inquiet, nerveux. Mais que se passait-il chez lui ? Avait-il pris un coup de vieux ? Ou certainement qu'on dut se poser des questions à son sujet. Hein. Est-ce que c'était ses brouilles avec le gouverneur romain qu'il avait mis dans ces états-là ? Étrange ambiance en tous les cas que celle que connurent ses festivités dans ce grand jour. Mais pourquoi le roi en était-il arrivé là dans ce grand jour de son anniversaire ? Simplement que ses oreilles bourdonnait encore d'un message fraîchement entendu du prophète Jean-Baptiste, qui lui avait dit la vérité de Dieu sur lui-même. Jean-Baptiste lui avait dit, « Hérode, mais de l'ordre dans ta vie. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère, tu es en adultère. Mets de l'ordre dans ta vie. Seulement Hérode ne voulut rien entendre de ce message du prophète. Pour toute réponse, il le fit jeter en prison, comme nous l'avons entendu tout à l'heure. Bien entendu, sur insistance de cette femme avec laquelle il était en adultère, la femme de son frère, du nom d'Hérodias. Ah, il avait pensé qu'une fois Hérode en prison, il en aurait été soulagé. Et c'est souvent ce que nous pensons également. Vous savez, une fois ou l'autre, le Seigneur nous a tenu le langage de la vérité. Et nous avons essayé de fermer nos oreilles à cette parole de vérité que le Seigneur nous avait donné d'entendre. Et le Seigneur ne cesse justement de vouloir faire en sorte que nous entendions sa parole, parce qu'elle est une parole de salut, une parole qui veut faire en sorte que nos vies soient en ordre avec lui. Mais nous ne voulons rien entendre de la parole de Dieu, comme ce fut le cas d'Hérode et d'Hérodias. Et cette parole entendue avait agité sa conscience. Voilà pourquoi ce roi était mal dans sa peau, tiraillé entre Hérodias, avec laquelle il était en adultère, et puis ce Jean-Baptiste qu'il craignait, le sachant prophète de l'Éternel. Ainsi sommes-nous, nous aussi très souvent, dans ce type de situation, tiraillés entre cette parole de Dieu que nous savons vraie, parce que le Seigneur nous tient le langage de la vérité pour notre bien. « Mets de l'ordre dans ta vie, nous dit-il. » Au fait, nos huit sens sont-elles en ordre avec Dieu? Oui, est-ce que réellement nous avons fait la paix avec Dieu par Christ? Peut-être avons-nous déjà entendu l'Évangile, le seul message qui sauve. Nous l'avons peut-être entendu il y a 10 ans. 20 ans. Nous l'avons peut-être entendu, comme me le disait à midi un frère, mais il y a 40 ans que j'ai entendu l'Évangile, au fond du puits, d'un puits de mine. Ah oui, et puis, ça n'est qu'il y a quelques années que le Seigneur m'a secoué dans une réunion comme celle-ci. On a entendu l'Évangile. Savez-vous que beaucoup d'hommes, aujourd'hui, n'ont pas encore entendu l'Évangile ? Et attendent de l'entendre, cet évangile, pour être sauvés. Alors que nous faisons la fine bouche. Une campagne d'évangélisation est organisée chaque année ici à Carnières. On vient entendre l'évangile, on revient l'entendre, et puis ça ne bouge pas, mais notre conscience nous agite. Nous sommes tiraillés entre justement cet attrait du monde, cet attrait du péché, comme ce fut le cas pour ce roi Hérode, et puis cette parole de vérité que le Seigneur nous adresse pour notre salut. Mais pourquoi nous adresse-t-il, le Seigneur, une parole de vérité qui trouble notre conscience? Parce qu'il nous aime. Je vous pose la question, ami. Que diriez-vous d'un médecin et qui vous dirait, j'allais dire, des mensonges sur vous, votre cas, qui vous cacherait la vérité sur un mal dont vous seriez atteint? Bien, si vous l'appreniez, vous ne seriez pas heureux avec ce médecin et vous changeriez de médecin. La Bible nous fait savoir que le Seigneur nous tient le langage de la vérité pour nous conduire à une vraie guérison intérieure. Que d'hommes et de femmes souffrent en raison d'un désordre de leur vie en général. Alors ce message de l'Évangile qui retentit comme celui sorti de la bouche du prophète Jean-Baptiste, met de l'ordre dans ta vie. Et la Bible dit qu'il ne peut, y avoir de paix authentique dans le cœur de l'homme tant que l'homme n'a pas mis cet ordre que Dieu veut dans sa vie. Est-ce que ta vie est en ordre avec le Seigneur ? Et ce soir, le message du Seigneur, un message d'amour, hein, en même temps qu'un message de vérité, mais de l'ordre dans ta vie. Lorsque le Seigneur m'a adressé ce message, voilà 41 ans et plus, 42 ans, où je n'avais pas accepté du premier coup, hein, mais de l'ordre dans ta vie, ma vie me regarde. Ma vie est à moi. Et je peux l'amener comme ça me chante. Personne n'a le droit d'entrer dans mes affaires. Mais le Seigneur me disait par des textes dans les Saintes Écritures, mets de l'ordre dans tes affaires. Est-ce que nos affaires sont en ordre? Nos affaires familiales, nos affaires professionnelles, nos affaires personnelles. Oh oui, mets de l'ordre dans ta vie. Voilà donc qui avait jeté le roi dans un trouble intérieur considérable. Et quel festin! Ah, ni les bons plats, ni les meilleurs vins, ni l'heureuse occasion, ni le bruit des festivités, ni les chants, ni la musique, ni les tambourins ne purent couvrir cette voix du prophète, mais de l'ordre dans ta vie. Et nous aussi, nous essayons de nous bourrer les oreilles et le cœur surtout de bruit, de bruit, de bruit dans nos festivités quotidiennes, hein, pour tenter d'oublier cette voix qui nous dit avec amour, mets de l'ordre dans ta vie. Nous n'aimons pas entendre ce genre de message, et pourtant c'est le message qui sauve. Oh, les hommes et les femmes aujourd'hui se remplissent les oreilles de bruit. Ils se remplissent le cœur de bruit. Oh, que de bruit aussi intérieur, hein. Au niveau de nos soucis, par exemple, de nos difficultés, de nos tracas, de nos problèmes. Oh, que de bruit, et la voix de Dieu a tellement de peine à passer pour nous atteindre profondément. Et comme je suis en train de le dire précisément, ce genre de choses n'est pas nouveau. Le roi Hérode était passé par là. Alors, réellement, comment faire la fête quand notre conscience est chargée? Chargée de désordre, chargée de son péché. La Bible dit que le désordre est source de souffrance. Quand il y a désordre au plan physique, dans notre corps, il y a souffrance. Quand tout à coup, par exemple, un infarctus, c'est un désordre. Il génère la souffrance, qu'il s'agisse d'un infarctus ou d'une crise de foie parce qu'on a trop mangé. Et je peux vous dire qu'on mange bien ici, hein. Faut faire attention à la crise de foie. Mais en tout cas, on mange bien, hein, puis c'est bon. Bon. Mais en tout cas, une crise de foie, bah c'est un désordre aussi, qui génère aussi trouble, souffrance, tout désordre. Le cancer, qui jette le désordre au niveau de nos cellules, qu'on n'arrive plus à contrôler, qui pousse n'importe comment, qui croisse n'importe comment. Et ce désordre engendre souffrance, peine et mort. Dieu ne veut pas le désordre. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et parce qu'il est un Dieu d'ordre, il veut nos vies en ordre. Alors, ami, ta vie est-elle en ordre? En ordre avec Dieu? En ordre avec les hommes? Mets de l'ordre dans tes affaires, mets ta vie en ordre, avait dit Jean-Baptiste au roi. Sa conscience donc le torturait, et comment faire la fête quand la conscience agace, quand elle tenaille, quand elle torture, et que d'hommes et de femmes vivent avec des consciences qui les torturent. C'est peut-être votre cas. Y a-t-il une issue? On en arrive jusqu'au psychologue. Lui aussi torturé dans sa conscience, hein? Très souvent. On en arrive au psychiatre torturé dans sa conscience. On en arrive alors à tenter de noyer toutes ces choses dans l'alcool, par exemple, dans la drogue. Ah, beaucoup, parce que justement taquiné par une conscience qui n'est pas en ordre, verse dans l'alcoolisme, dans tout ce que vous voulez, ou encore dans les sciences occultes pour tenter de se tirer d'affaires. Ça ne marche pas. le rhumatisme revient quand l'ivresse s'efface. Ou alors on veut vivre et faire la fête. C'est une façon de se tirer d'une conscience qui charge, qui tenaille. Non, ça ne marche pas non plus. Ah, c'est le lendemain de fête, franchement. Quand je regarde aux Parisiens, après les fêtes de Noël, mes amis, avec leurs cernes jusqu'au menton, des têtes livides, des yeux comme éteints, le visage fané, on a festoyé. Mais ça n'a pas marché parce que on est vite renvoyé à nos humeurs habituelles. Parce qu'on n'a pas compris non plus que la vraie fête, ça n'est pas celle que l'on met sur la table. La vraie fête, c'est celle du cœur. La vraie fête, c'est celle de la conscience. Et la conscience ne peut pas connaître une quelconque fête intérieure tant qu'elle est chargée de son péché. La Bible dit, tant qu'un homme vit dans son péché, une femme, un jeune homme, une jeune fille, il n'y a pas de possibilité de paix intérieure, de joie de vivre. Il faut régler ce grand problème du désordre intérieur du péché. Et c'est précisément ce que très souvent nous ne voulons pas entendre. Laissez-nous vivre comme ça nous chante. Mais ceci nous le disons au Seigneur. Tout à coup, en plein festin, la fille d'Hérodias entra dans la salle et se mit à danser. Quelle danse! J'imagine qu'il s'agissait de danses telles qu'on peut les connaître de nos jours. Et surtout de ces danses qui nous sont présentées. Oh, je n'ose même pas l'évoquer. Oui, sur le petit écran, au niveau de certaines chaînes de télévision. Et cette irruption, justement, de cette jeune fille dans cette salle du festin avait généré une explosion d'érotisme. Et le roi se laissa à nouveau prendre dans ce piège du malin, la convoitise des yeux après la convoitise de la chair, avec tout ce que cette table pouvait présenter aux convives, la convoitise des yeux, en tout cas, l'une de ces danses orientales très suggestives, comme nous pouvons encore les voir de temps à autre sur le petit écran. Et la Bible nous fait savoir, les textes nous font savoir que cette jeune fille plut à tous les convives. Oui, même à l'élite religieuse, hein. Oui, une explosion de corruption. Le roi la désira dans son cœur, à ce point qu'il était prêt à céder la moitié de son royaume. Demande-moi ce que tu voudras. Après avoir eu la mère, maintenant, il veut la fille. Et c'est ce qui nous arrive couramment, lorsque nous ne voulons rien entendre du message de la vérité. Oh, il y a une sorte d'escalade dans le péché qui n'en finit plus d'en finir. Oui, après avoir versé dans l'adultère avec la mère, maintenant, il est dans l'adultère avec la fille. Oui, sa nièce, presque impensable, pourtant vrai. Alors que faire? Le roi n'était pas d'accord pour décapiter Jean-Baptiste, mais sur pression d'Hérodias, qui n'était pas sa femme, et sur pression de sa nièce qui venait de danser. Il dut céder. Mais quand on y pense, et il donna ordre à un garde d'aller chercher la tête de ce Jean-Baptiste, lequel n'était pas au repas, bien entendu. Comme je le disais tout à l'heure, il était en prison, mais son ombre était sur ce banquet. Sa voix était dans les oreilles du roi. On avait tenté de s'en débarrasser en vain. Maintenant, il fallait s'en débarrasser pour toujours. Peut-être qu'alors ça irait mieux, hein, rien à faire. Et l'on apporta bien malheureusement la tête du prophète. La Bible dit qu'il, avec Jean-Baptiste, il s'agissait du plus grand des prophètes, plus qu'un prophète. Jésus avait dit de Jean-Baptiste en Matthieu 11, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que lui. » Voilà comment il a terminé, Jean-Baptiste. Un grand homme de Dieu. Sa tête passa d'une main à l'autre au cours de ce repas. Et c'est, j'allais dire, pour dessert à ce banquet qu'on offrit aux convives un mets de violence. Imaginez la scène. Oui, ceci nous fait frémir. Mais ainsi arrive-t-il à ceux et celles qui ne veulent rien entendre de la vérité. Oh, la Bible dit, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Hein, on ferme nos oreilles à la parole de Dieu. Est-ce que ce soir, nous allons prendre ce risque? Je veux croire que non. En réalité, je vais vous dire de quoi était fait ce festin. De ce qui suit, au niveau des invités, quoi, une sorte de soufflet, hein, comme hors d'œuvre, une sorte de soufflet d'orgueil arrosé d'un bon vin, oui, du vin de la fierté, de cette classe qui avait eu tant de plaisir à se retrouver dans cette maison royale, pour plat de résistance, un mets d'adultère et d'érotisme. Mais c'est très exactement ce que le monde nous offre, couramment, pour que, précisément, nous puissions vivre de cela. Oui, l'adultère et l'érotisme nous sont jetés en pâture. Et comme dessert à ce banquet, un plat de violence. Mais c'est tout à fait ce que nous offre la télévision, déjà. Ou encore nos magazines, tout ce que vous voulez, les nouvelles que nous entendons. Nous en sommes constamment là. Et ceci, justement, pour que nous puissions vivre de ces choses. Et vivre de ces choses ne rassasie pas. Oui. De telle manière que nous pouvons dire que cette table royale est pour nous aujourd'hui une figure de ce monde qui nous jette en pâture, quoi ? Justement, cette convoitise de la chair, cette convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et c'est ainsi que la Bible définit le péché. Souvent, on me pose la question, le péché, c'est quoi ? Mais voilà, c'est ça. C'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. Et la Bible nous fait savoir que le monde est assis à cette table et veut vivre de ces choses. Mais la Bible dit que la fin de ces choses, c'est la mort. Qu'en réalité, cette table, c'est la table de la mort. Oui. Apparemment, c'est la joie de vivre. Et le monde nous donne l'impression qu'il connaît une certaine joie de vivre, hein, nous le disions tout à l'heure. Mais à y creuser un peu, à y gratter un peu, on s'aperçoit que précisément tous ceux qui veulent festoyer, festoyer encore, c'est parce qu'ils connaissent une détresse intérieure qu'ils cherchent à oublier, à noyer dans ce genre de festivité. Oh, la Bible nous parle du péché justement de cette façon-là, nous l'avons entendu tout à l'heure. Une figure du monde, cette table d'Hérode. Je vous pose la question, ami, est-ce que vous êtes assis à cette table? Est-ce que vous mangez à ces mets-là? Vous en avez qui s'y régalent, littéralement. Oh, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais c'est tout à fait, je le répète, ce que nous jette en pâture la radio, la télévision, nos journaux, nos magazines, tout ce que vous voulez. Mais en un choc, vous en avez après toutes ces choses. Non, je n'ai rien contre la télévision. Je veux dire simplement qu'elle peut être un danger. Pour que nous nous gavions de choses qui sont tellement sales. Et c'est tellement facile. Je me souviens de mon père spirituel, Ralph Chalice, nous disait, si vous ne maîtrisez pas la télé, c'est elle qui va vous maîtriser. Hein. C'est comme un chien. Si on ne maîtrise pas un chien, alors c'est lui qui va nous maîtriser. Hein. Et on aura bien de la peine avec lui. Bien entendu que le Seigneur n'interdit pas la radio. Il y a plusieurs années en Angleterre, quand la radio a vu le jour, Ralph Chalice nous disait qu'il avait posé la question à un vénérable vieillard, un chrétien de longue date, hein, la question de savoir ce qu'il pouvait penser de la radio. Et ce chrétien vénérable lui avait répondu, « Ah, attention à l'antéchrist, mais on peut entendre les nouvelles à la radio. » Moi-même, souvent, j'ai l'occasion de parler à la radio. J'ai quelques 50 émissions par semaine sur les ondes pour que l'évangile atteigne les extrémités du monde. Et puis de temps à autre, oui, j'apparais aussi sur le petit écran. On peut se servir de ces choses pour faire avancer le règne de Dieu. Mais ce que justement le petit écran peut nous faire voir de cochonnerie, d'ordure, de saleté, c'est presque incroyable. Quand nous pouvons voir sur le petit écran, de temps en temps je regarde, je ne vous dis pas quelle chaîne, je crois que je l'ai dit la fois passée, alors c'est pour ceux qui étaient là. Mais alors, de ces vidéos, hein, vous vous demandez s'il s'agit encore d'hommes, de femmes, encore dans leur bon sens, hein. Ah, s'il est vrai qu'il existe des musiques d'inspiration divine. Il existe des musiques d'inspiration diabolique. Mais on n'a rien contre la musique elle-même, le Seigneur s'en sert. Et il fait passer son message au travers de la musique. On s'est régalé hier avec Madame Gobert ici, qui chante pour le Seigneur. Et que j'aime ses chorales. Et cette bonne musique chrétienne, quand je roule en Belgique, en Suisse, à la radio de ma voiture. Nous pouvons donc nous saisir de tous ces moyens pour faire passer le message. Mais la plupart du temps, c'est le monde qui se sert de toutes ces choses pour faire passer un autre message. Ah, le message de la convoitise de la chair. Le message de la convoitise des yeux. Le message de l'orgueil, de la vie. Voilà donc une image de ce monde, la table d'Hérode, et celui qui l'a présidé, justement, Hérode. Hein. Une image de celui que la Bible appelle le Dieu de ce siècle, et c'est lui qui préside à la table de ce monde. Et c'est lui qui invite le monde entier à ce festin, et qu'il veut lui donner de corruption, de révolte, de corruption sexuelle et de violence. Quand on pense à la violence, je lisais un article la semaine dernière en France à propos de Mike Iver. On aime beaucoup Mike Iver, hein. Ce policier séducteur là, hein. Charmeur, hein. Alors, des enfants dans l'est de la France ont joué les Mike Iver. Mais pour de vrai. Alors évidemment, ils sont presque allés au crime, hein. Et ils avaient mis en place une espèce de scène policière à la façon de Mike Iver, au grand désespoir de la police et au grand désespoir de leurs parents. Mais quand on se gave de ces choses, comment voulez-vous qu'on agisse autrement? Au lieu d'entendre le message de l'Évangile, de recevoir réellement ce grand message qui sauve nos enfants, sont gavés de télévision. C'est fou, littéralement. Et ceci fait énormément de mal. La table de ce monde. La Bible dit que, qu'un jour ou l'autre, nous nous sommes tous, comme chacun, trouvés assis à cette table. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement qu'il y eut en ce temps-là une autre table. Dans un autre anniversaire, celui de la Pâque, avec un autre roi. Ah, plus Hérode, hein. Mais le Seigneur président à cette table, la table de la chambre haute. Oui, dans une occasion d'anniversaire. Bien entendu que la chambre haute ne connut pas cette effervescence du palais du roi Hérode, certainement. Les invités? Ah non, pas le tout Israël, hein. Pas l'élite militaire, pas l'élite religieuse, pas l'élite politique. Non, des pêcheurs de poissons, des péagers, des collecteurs d'impôts, des gens tout à fait modestes. À cette table du Seigneur, sur la table, un repas frugal, rien à faire avec l'autre table, hein. Absolument rien à faire avec l'autre table. Mais dans ce cas particulier de cette table-là, bien que présentant les emblèmes d'un sacrifice qui devait arriver, celui du Christ, du pain, du vin. Oh, et il y avait tout un message. Mais non pas un message de mort comme l'autre table, un message de vie, un message d'amour, un message de paix. Un message de joie. Et quand nous pensons que précisément, c'est dans la chambre haute, autour de cette table que le Seigneur a donné ses derniers discours dans ses temps de Pâques, ses discours à partir de Jean 13, Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16 et Jean 17. Ah, tout ceci à cette table. Et à l'occasion de ce festin, j'allais dire, mais de ce festin spirituel, le Seigneur a parlé d'amour comme personne n'en a parlé. Et c'est là qu'il a dit, par exemple, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Savez-vous ce qu'il a fait en Jean 13, hein? Il a pris la forme d'un serviteur, ayant aimé les siens jusqu'au bout, dit la Bible. Il avait pris la forme d'un esclave et il s'était mis à laver les pieds de ses disciples. Il était pourtant roi à cette table. Il avait présidé cette table. Mais on n'a pas entendu dire que à la table du palais chez Hérode là-bas, Hérode s'avait pris la forme d'un esclave pour laver les pieds de cette élite militaire, de cette élite politique, de cette élite religieuse. Ah, celui qu'il avait gêné dans le message qui lui avait fait entendre Jean-Baptiste, lui, il était en prison. Et pour finir, il l'avait fait décapiter. Tandis que là, une partie de ce temps-là, Judas avait été présent. Et ce Judas, Jésus ne l'avait pas mis à la porte. Et quand Judas était venu pour le livrer, Judas avait embrassé le Seigneur. Et pour toute réponse, le Seigneur lui avait dit, mon ami, une ombre avait plané aussi sur ce repas, celle de Judas. Et cette ombre avait été, j'allais dire, pénible au Seigneur. Mais le Seigneur n'avait pas agi comme l'autre roi. Il ne l'avait pas fait jeter en prison. Et il ne l'avait pas fait décapiter. Judas était allé, après avoir livré le Seigneur, après l'avoir trahi, il était allé de sa propre volonté se suicider lui-même. mais le Seigneur l'avait lui aussi aimé jusqu'au bout. Quelle autre table! Alors, la table où on se régale de l'amour de Christ. Imaginez ces disciples qui entendaient le Seigneur parler d'amour comme personne précédemment. Une table où on se régale de la paix du Seigneur. Personne n'a jamais parlé de paix comme le Seigneur en a parlé. Une table, c'est dans ces circonstances qu'il a parlé de paix. Une table où il a parlé de joie comme personne en a parlé. Vous savez comment il a parlé de joie? Là, hein, dans ces circonstances, dans ses derniers discours. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous. Mettez-vous à la place des disciples, entendant ce message. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La table de la vraie joie. Avec le Seigneur, la table de la vraie paix, la table de l'amour véritable. Et même si sur la table il y avait les emblèmes d'une mort, c'était la table de la vie. Et cette table de la vie, elle est là encore. Pour que nous venions prendre place, pour nous nourrir du Christ, de la parole de Christ. Je vous pose la question, amis, à quelle table êtes-vous assis? La Bible ne nous parle que de deux possibilités de table. La table du diable. Ah, le monde est assis à cette table et se gave de s'aimer de corruption et de péché, puis de la table du Seigneur. Et tellement peu de monde est là. Jésus l'a dit lui-même, il y a deux routes. Une route large, que beaucoup empruntent, c'est la route de la perdition. Malheureusement, beaucoup se situent sur cette route-là. Et pour la figurer autrement, nous dirons qu'elle correspond à la table de ce monde que préside le diable. Et Jésus d'ajouter, il y a une autre route, une autre porte, peu passe par là. C'est la porte de la vie, la route du salut. Oui, un chemin difficile. Et Jésus posait la question, sur quelle route vous situez-vous? Et ce soir, ils nous disent, à quelle table êtes-vous assis? Et son message de ce soir, change de table. Et il le dit avec amour. Quitte la table de ce monde et viens prendre place à la mienne pour ton salut, pour que réellement tout puisse changer chez toi. Et changer de table, passer de la table de ce monde de corruption à la table du Seigneur, la Bible dit, c'est passer de la mort à la vie. Jésus l'a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, celui-là a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Moi, j'ai changé de table, voilà 41 ans. Et toi, mon ami? La Bible dit que changer de table, c'est passer des ténèbres, de la table du diable, à la table de la lumière. Du Seigneur, c'est passer des ténèbres à la lumière. Changer de table, c'est changer de maître. C'est passer de ce maître cruel qu'est le diable. Hein. Oh, ce qu'il peut nous faire de mal. Hein. Et il nous trompe quand il nous met dans le crâne que changer de table, c'est précisément ne plus vivre. Et que d'hommes et de femmes croient cela. Changer de table, c'est changer de maître. Qui est ton maître, mon ami? Oh, que j'aime cette parole de Jérémie le prophète qui dit à son Dieu dans une prière, j'ai recueilli tes paroles. Voilà comment on se régale hein, à la table du maître. J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. J'imagine que les disciples à cette table devaient dévorer les paroles du Seigneur. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. À cette table nous est offert le pain de vie, qui peut être la parole de Dieu, mais qui est aussi le Seigneur lui-même. À cette table nous est présenté le sacrifice, justement, qui nous fait passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan. Quelle puissance à cette table ! Du diable, il tient les hommes. Et il faut la puissance du Christ et de l'Évangile pour changer de table et pour passer à la table du Seigneur. Demain matin, nous serons ici, dans ce lieu, quelques chrétiens attablés, oui, mais à la table du Seigneur, pour rappeler justement tout ce que le Seigneur est pour nous, et pour proclamer et pour dire de quoi, précisément tous les jours, nous nous nourrissons. Ah oui, nous sommes devenus participants de Christ. Et c'est encore dans ses derniers discours, là, dans cette chambre haute, que le Seigneur a prononcé des paroles telles que celles-ci, n'est-ce pas ? Je suis le chemin. C'est la table, justement, qui nous montre le chemin à suivre avec le Seigneur. Et le chemin, c'est une personne. Je suis la vérité, c'est la table de la vérité. L'autre, c'est la table du mensonge. Je suis la vérité, je suis la vie. Mon ami, de quoi te nourris-tu tous les jours ? De quels mets spirituels et moraux ? Le monde aujourd'hui est lugubre. Et il a faim. Il connaît la faim dans l'abondance, mais il ne veut pas changer de table. À quelle table es-tu assis ? Est-ce que ce soir tu veux changer de table ? Oh, pour changer de table, il faut passer par la croix. Pour changer de table, il faut précisément régler la question de notre péché. Pour changer de table, il faut accepter le sacrifice de la croix. Qui nous purifie, dit la Bible, de tout péché. La Bible dit que le Christ a aboli le péché par son sacrifice. La Bible dit encore que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Voilà pourquoi cette table, bien qu'elle présente les emblèmes d'une mort, est la table de la vie. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Oh, celui qui me mange vivra par moi. Au plan spirituel, bien entendu, on ne va pas manger le Christ au plan charnel. Au plan physique, on le mange au plan spirituel, le Seigneur a dit. Les paroles que je vous ai dites, justement, en Jean 6, sont esprit, et elles sont vie, on le mange en esprit, on le mange en vie, hein, et on se régale, j'allais dire, de sa présence, de sa personne. On se régale aussi de son sacrifice pour le pardon de nos péchés et pour toute une vie chrétienne, mis à part pour lui. Mes amis, il n'y a que deux alternatives, dit la Bible. La table du monde, la table de la mort, la table des ténèbres, la table du malin qui nous trompe, qui nous trompe. Et la table du Seigneur qui est la table de la vérité, la table de la vie. On est assis d'un côté ou de l'autre, on ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. La Bible nous rapporte l'histoire de ce Judas. Nous ne voulons pas juger, hein. De ce Judas, lui qui mangeait à tous les râteliers, hein. Alors vous en avez aussi, qui vont manger à tous les râteliers, ça ne marche pas. Et Judas, après avoir mangé le morceau trempé, ah oui, c'était une façon de manger à la table du Seigneur, était allé ensuite à l'autre table, pour livrer le Seigneur. Et nous savons comment cet homme a fini. On ne peut pas avoir un pied ici, un pied là. Vous en avez qui cherchent à marcher de cette façon-là. Alors la Bible leur dit, arrêtez maintenant de marcher, de clocher les deux pieds. Hein. Ça ne marche pas. Il faut choisir, il faut choisir, il faut choisir la table du Seigneur. Et le Seigneur nous invite à venir à sa table, et sa table évidemment est la table du salut. Elle est une figure, si l'autre était une figure de la table du monde, la table du Seigneur c'est une figure du royaume de Dieu. comme le Seigneur nous l'a dit en Luc 22 tout à l'heure. C'est une figure du royaume de Dieu où l'on se nourrit de mets spirituels et moraux absolument remarquables. Oh mon ami, je vous pose la question, est-ce que la parole de Dieu est tous les jours un festin à vos oreilles? Est-ce que vous l'aimez, cette parole de Dieu? Est-ce que vous la chérissez? Est-ce que vous la recevez tous les jours? Est-ce qu'elle fait votre joie? Jésus a dit, celui qui a mes commandements, sa parole, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et à cette table du Seigneur, nous sommes comblés. Parce qu'en Christ, dit la Bible, habite toute la plénitude de la divinité. Parce que sa parole est une parole de plénitude qui nous remplit le cœur. Tandis qu'à l'autre table, jamais satisfait. Bien qu'il y ait abondance. Oh, que cette table est véritablement une image de notre Occident. Dit chrétien. À laquelle était attablé un roi juif. Et puis à laquelle était aussi attablé un clergé juif dressé contre le Seigneur. Alors nous sommes invités à la table du Seigneur. Est-ce que tu es assis là, à la table du Seigneur, à la table où la fête est dans le cœur, que j'aime ce cantique, qui dit peut-être, est-il dans votre recueil, je pense, du Christ la fête est toujours prête et le festin est ouvert. Une invitation à venir au festin du Seigneur. Il y a peut-être quelqu'un, certainement, qui avait besoin d'entendre ce message, un jeune peut-être, trompé par ce monde, ou un moins jeune, qui avait besoin de cette invitation à changer de table pour être sauvé. Plusieurs ici ont changé de table. Vous, pas encore. Alors vous êtes invités, vous êtes appelés à changer de table pour passer de la table de la mort à la table de la vie. Voulez-vous changer de table? En venant à la croix et en acceptant que sur cette croix, représentée par ceux qui étaient sur cette table, Christ s'est donné pour vos péchés personnels. Il s'est donné pour vous débarrasser d'une vie en désordre, d'une vie de péché. Il est venu pour que vos affaires soient en ordre avec Dieu. Il est venu pour que vous viviez en nouveauté de vie, pour que vous changiez de cœur, pour que votre conscience soit délivrée de son péché. C'est à ce moment-là que la vraie fête commence. Une conscience guérie de son péché. Un roi, disons en Israël, a chanté, heureux celui à qui la transgression est remise, heureux celui à qui le péché est pardonné. Voilà pourquoi je parle de fête en Jésus-Christ, mais la vraie fête dans le Seigneur, le pardon des péchés. Et puis le Seigneur nous change de route et il met devant nous un nouvel horizon. Oh, la Bible dit que celui qui vient prendre place à cette table devient une nouvelle créature, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles avec le Seigneur. On est-tu, mon ami, maintenant, ce soir? À partir de cette illustration des deux tables, tu dois pouvoir te situer, oui. Où en es-tu? Et surtout, tu peux prendre cette décision tellement solennelle. Je change de table. Seigneur, je viens, j'ai compris. Je choisis la vie. Je viens à toi. Accueille-moi. Et le Seigneur dit dans sa parole, je ne mets point dehors celui qui vient à moi. Il ne vous met point dehors. comme le roi Hérode avait mis dehors Jean-Baptiste. Non, il vous accueille, il vous reçoit, il vous sauve, il vous transforme. Et vous devenez réellement un enfant de Dieu. Oh, qui ce soir veut changer de table, maintenant? Pas demain ni après-demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. La Bible dit, c'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, cette voix d'amour, mais de vérité, n'endurcissez pas votre cœur, ne fermez pas vos oreilles. Ah, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut rien entendre. Et il en est, hein, des hommes et des femmes qui ne veulent rien entendre. Venez au Christ ce soir, maintenant. Je vous y invite, mais peut-être n'avez-vous pas les mots pour changer de table. Alors, répétez ce que je vais maintenant prononcer. Je vais dire une prière pour vous la passer. Et pour qu'elle soit à vous, dans votre cœur, dans votre bouche, afin que vous puissiez la lui dire, cette prière du fond du cœur, afin qu'elle devienne votre prière. Oh, nous prions maintenant. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Vous vous êtes découvert assis à la table d'Hérode, c'est-à-dire à la table de ce monde, à la table qui refuse d'entendre la vérité et qui se nourrit du péché. Cette parole vous a touché. Vous voulez changer de table. Vous voulez venir au Christ. Oh, faites-le maintenant. Avec cette prière, dites-lui, Seigneur, je veux quitter cette table, la table de ce monde, la table du péché, pour venir à toi et m'asseoir à ta table, à toi. Oh, cette table qui m'offre ton sacrifice pour la purification des péchés. Dites, Seigneur, tu es mort pour mes péchés, ta parole le dit, je le crois, je me confie en toi. Ta parole m'a dit ce soir, mets de l'ordre dans ta vie. Tu sais ce qui est dans ma vie, Seigneur. C'est oui. Seigneur, viens et mets cet ordre d'en haut, dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oh, à partir de ce soir, je veux faire une vie nouvelle avec toi. Assis à ta table pour me nourrir de toi, de ta parole, de ton amour, de ta paix, de ta joie, de ta sécurité. Oh Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que je dois changer de table pour mon salut. Alors je viens. Seigneur, aide-moi. Oh, prends ma main, j'ai besoin que tu m'aides. Seigneur, viens. Je mets ma confiance en toi, dites-lui. Je mets ma confiance en toi.